Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gones qui cause culture sur lyondemain.fr. Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de G comme Odéon. Cette semaine, une émission rien que pour vous, nos auditeurs curieux et désireux d'échapper quelques minutes à la morosité chronique. Notre invitée est une passionnée, Fabienne Gras. Elle est peintre et anime l'atelier au 46 à la Croix-Rousse. C'est un lieu autogéré par un collectif d'artistes résidents. Gaëlle évoquera l'exposition à plein poumon à la Fondation Bulukian. Guillaume nous fera découvrir une femme forte en référence à son dernier clip, Wendy Martinez, sur notre plateau cette semaine. Et bien entendu, nos Gédéons, nos coups de cœur du moment. Fabienne Gras, bonjour, merci de nous recevoir ici au 46. C'est un groupement d'ateliers, groupement d'artistes. Vous n'aimez pas beaucoup le terme de collectif, alors on va parler de noyau d'artistes. Vous êtes aujourd'hui en charge de cette organisation au 46. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'origine d'abord de cette association de loi 1901 au 46?
Bonjour. L'association est née en 2018 avec la volonté de créer des ateliers d'artistes accessibles, inclusives, pour une douzaine d'artistes en résidence simultanée, dédiés aux arts visuels et arts vivants.
Fabienne Grasse, vous êtes vous-même artiste. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre pratique? J'ai vu des plâtres tout à l'heure dans l'atelier.
Oui, je travaille le plâtre de manière empirique et expérimentale. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher dans son historicité, autant géologique, mythologique, architecturale, artistique aussi, et de le pousser dans ses extrémités jusqu'à son extrême friabilité. Alors, je fais plutôt des installations ou des tableaux sculptures. J'aime bien travailler le plâtre en équilibre et dans sa finesse aussi, mais pas forcément de manière traditionnelle, même si je m'inspire quand même des méthodes des staffeurs ornemanistes qui existent depuis le XVIIIe siècle.
C'est intéressant parce que ça nous permet d'introduire aussi la pratique d'autres artistes, parce que au 46, vous accueillez des artistes qui sont pluridisciplinaires.
Oui, la volonté dès l'origine est de mixer les pratiques, d'entrecroiser les pratiques, tant en art visuel qu'en art vivant. Un lieu unique qui abrite, à côté de ces espaces dédiés aux résidences de recherche et de création, des projets d'action artistique et culturelle, un jardin potager et une programmation polymorphe.
Dans l'atelier, il reste actuellement quelques places disponibles. On reparlera ensuite de votre situation, qui est provisoire, puisque vous pouvez occuper les lieux jusqu'au 31 août, on en reparlera. Mais en tout cas, il y a déjà un appel à projet, un appel candidature, puisqu'on peut louer ces espaces pour des temps réduits, 3 ou 6 mois.
Oui, alors on ne parle pas de location. On propose des espaces de travail avec une participation aux frais, parce que nous faisons aussi, au-delà des espaces de travail dédiés, de l'accompagnement aux artistes. On propose des sorties de résidence, donc des ouvertures au public. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir confronter l'artiste, son travail au public.
Au 46, c'est un petit peu menacé. On va le dire comme ça. Les locaux ici, dans lesquels nous nous trouvons, ont été rachetés par le Grand Lyon. Et Grand Lyon Habitat va transformer ces locaux en partie en logements sociaux, c'est-à-dire les immeubles. Le rez-de-chaussée va rester normalement des ateliers d'artistes. Est-ce que c'est ça?
Oui, tout à fait. Le rez-de-chaussée est considéré par Grand Lyon Habitat comme un local commercial. Nous avons une convention précaire avec eux. Nous sommes en très bons termes et nous réfléchissons ensemble sur un cahier des charges, autant sur les travaux de réhabilitation que un cahier des charges financier, pour que l'on puisse envisager que nous restions et pérenniser notre activité dans ces locaux.
Il restera combien à peu près d'ateliers disponibles et éventuellement de galeries potentielles?
Alors, on est quand même en discussion pour garder cet étage, parce qu'à l'étage, nous accueillons quand même 3 artistes et nous avons notre lieu de réunion, notre cuisine collective. Maintenant, c'est vrai que sur le rez-de-chaussée, on a 140 mètres carrés d'ateliers dont 70 mètres carrés d'espace d'exposition, mais en même temps c'est modulable et on peut autant accueillir le public et transformer tout le lieu en lieu déambulatoire, soit pour des performances, soit pour des expositions collectives.
Le 24 mars prochain, ça va arriver très très vite, il y aura une soirée de soutien, c'est-à-dire une façon de faire connaître encore plus et encore mieux ce lieu qui se trouve donc au 46 rue de Cuir, je le rappelle, en plein centre de la Croix-Rousse, derrière le Monoprix. Et effectivement, c'est une façon aussi de mobiliser pour des soutiens potentiels. Vous avez même lancé une pétition.
Oui, tout à fait. Nous avons lancé une pétition pour avoir plus de visibilité, obtenir des soutiens et peser un peu plus auprès de Grandlieu Habitat et de la ville et de l'arrondissement pour montrer la nécessité d'un tel projet, qu'un tel projet soit conservé dans le 4e arrondissement.
Ce que vous proposez, et vous l'avez dit tout à l'heure en préambule, c'est de l'inclusion, c'est du lien social aussi à l'intérieur du quartier. Je crois que c'est complètement, en fait, dans le désir du collectif, du quotidien, de tout à chacun, hein, d'avoir des actions sur son territoire qui sont un peu différente simplement du métro, boulot, dodo.
On se rend bien compte que par le biais de l'art, on peut quand même questionner le quotidien, questionner notre environnement, questionner notre monde. Et on peut dire aussi qu'il participe à une forme de résilience.
Vous travaillez avec des enfants, vous travaillez aussi avec des personnes handicapées parfois.
Nous avons développé une résidence inclusive, des actions culturelles et une résidence, deux résidences inclusives auprès de publics porteurs de troubles psychiques et autistiques.
Ce lieu va être réhabilité et puis on vous propose une situation, pour l'instant c'est encore pour parler de relogement.
Oui, nous travaillons avec la mairie du 4 pour pouvoir être relogés le temps de la réhabilitation de nos ateliers et en espérant pouvoir revenir dans nos ateliers, bien évidemment. C'est encore en pourparler. Pour l'instant, je ne peux rien dire sur ce nouveau lieu, mais en tout cas, ça sera dans le 4e arrondissement. On y travaille vivement en ce moment.
Très bien. Étant donné que votre résidence se prolonge jusqu'au 31 juillet, vous avez évoqué tout à l'heure la possibilité de reprendre votre programmation. Le premier rendez-vous, on l'a dit, c'est le 24 mars, hein, c'est le vendredi 24 mars. Vous invitez tous les gens du quartier, mais aussi bien au-delà, en fait, à venir vous rencontrer.
Oui, nous sommes en train de travailler sur une programmation, parce que maintenant que tous les efforts ont été mis en place sur les subventions, sur les partenaires publics, institutionnels et tout ça, maintenant il y a la partie artistique de création qu'on va pouvoir développer jusqu'au 31 juillet.
Des artistes peuvent vous contacter. Il y a un site internet qui est très bien fait, qui permet de découvrir les espaces, de comprendre la philosophie du 46.
Nous sommes en train de faire un appel à candidature aux artistes. Nous avons appelé ce programme Alter Réalité Tangible, programme Art. Ce programme, c'est penser le monde différemment par le prisme de l'art et porter une réflexion sur les alter réalités possibles. Donc nous allons sélectionner des candidatures qui correspondent à notre ligne artistique.
Merci beaucoup et on se donne rendez-vous sur le site de O46.
AtelierO46.com.
Merci beaucoup Fabienne.
Merci Gaëlle.
Gaëlle, cette semaine, c'est à plein poumon que tu as découvert la nouvelle exposition de la Fondation Bulukian.
Tout à fait, puisque cette exposition s'intitule « À plein poumon ». C'est une exposition collective, elle réunit 12 artistes, dont deux de la région, Aurélie Pétrel et Vahan Sogomonian. Fanny Robin, pour cette exposition, elle est la commissaire, s'est appuyée sur la notion de souffle, son imperceptible mouvement, son aspect vital et insaisissable. À plein poumon aurait également pu s'appeler à bout de souffle. Le parcours s'ouvre sur des photos de Nicolas De Villers. La série Crossfade, fondu enchaîné, révèle des paysages gagnés par le flou énigmatique de la brume, à la lisière entre photos et peintures. L'artiste retrouve d'ailleurs ses sensations de peintre dans les photos rehaussées de pastels secs. Les images dévoilent tout autant le souffle de la nature que l'urgence, d'un point de vue métaphorique, de sa nécessaire respiration. La série Remake, réalisée avec la même technique, offre d'insondables ciels chargés. Les formes frôlent l'abstraction et les couleurs oniriques consacrent le rendu énigmatique. L'artiste brésilien Jonatas de Andrade propose au Peixe, le poisson, une vidéo de 37 minutes diffusée en partenariat avec Image Passage, une association axée sur l'image en mouvement dans l'art contemporain. En 2016, j'avais pu voir cette vidéo lors de sa première et remarquée présentation à la Biennale internationale d'art contemporain de São Paulo. En cette année 2023, au Peixe, le poisson, sera également présenté à la Bourse de commerce collection Pinault. La vidéo, située entre documentaire ethnographique et fiction, suit des pêcheurs du nord-est brésilien dans l'état de l'Alagoas. Des pêcheurs munis de leur matériel traditionnel, filets et harpons, patientent pour capturer leur proie. Chaque pêcheur pratique un rituel. Il tient le poisson dans ses bras jusqu'au moment de la mort, dans une sorte d'étreinte entre prédateur et proie, vie et mort, sensualité et drame. Dans cette étreinte, le regard tout autant du pêcheur, du poisson, de la caméra et du spectateur joue un rôle crucial. Le poisson, comme d'autres animaux aquatiques tels que le crabe, fait partie d'une série d'Élise Grenois. Sans titre, mais toutefois qualifié entre parenthèses « dispositif de monstration des cristallisations » en référence à Vinciane Després, la série propose d'atypiques sculptures dans des boîtes, certaines étant ouvertes, d'autres pas. Élise Grenois utilise le procédé de cristallisation pour rendre inaltérables les corps périssables des animaux de mer. Le poisson ou le crabe, ainsi figé, porte les empreintes des rendus incroyables de la cristallisation. L'artiste confesse, le résultat m'a parfois étonné. Les stigmates gris sont ceux de la cendre, le blanc ceux des os. Le souffle s'incarne ici dans la circulation de la matière issue de la combustion du procédé. Cette archéologie du présent fait écho au travail de Deborah Fischer. Pour sa série « Le souffle des objets », l'artiste a collecté des objets abandonnés dans les rues de Paris, matériaux auxquels elle apporte une nouvelle aura grâce au souffle du verre. Ces objets ont eu une vie, une fonction, évocateur de notre passage et aussi miroir de nous-mêmes, comme un soupir, cet autre aspect du souffle animé d'une charge émotionnelle. Le verre vient sublimer ces objets qui réagissent différemment à la fusion avec le verre selon leur matérialité. Le verre leur confère une âme nouvelle, une renaissance. Ces objets ne sont plus des objets, ils deviennent des œuvres, ils respirent. Respirer, prendre l'air, c'est également le propos de Miguel Azarbe dans la vidéo Trajectory 5, donc Trajectoire 5, toujours diffusée en partenariat avec l'association Image Passage. La vidéo suit le parcours d'une bulle de savon saisie en apesanteur dans un paysage. L'artiste nous donne à voir l'évolution des métamorphoses de cette bulle irisée à l'image d'un murmure de l'air, offrant tout à la fois un reflet, une déformation et la possibilité de voir à travers. Cette bulle si fragile et fugace fait référence au registre des vanités. Memento mori, rien n'est éternel. Et pour figer un courant d'air, quelle représentation artistique feriez-vous? C'est la proposition de Jean-Baptiste Caron, artiste ancien prestidigitateur avec la série « Dans la mesure du saisissable ». Où la trace des courants d'air se fige poétiquement dans la matière, à savoir de la cire. Les mouvements et flux de l'air semblent fossilisés, comme dans les moulages de bas-reliefs. Les formats rappellent aussi les métopes, ces fameux panneaux ornés présents sur les frises architecturales. Jean-Baptiste Caron expose également au gré des existences, une grande installation in situ composée de nombreux miroirs de différents formats et d'époques. Soyez vigilants, cette proposition est interactive. L'œuvre vous sollicite pour exister pleinement. C'est bien votre action, votre souffle qui révélera l'œuvre. Je compte sur vous. Soufflez bien sur les miroirs. Ma chronique ne va pas divulgâcher les faits. Je vous donne juste les indices suivants. Libère ton esprit. Inspirer, c'est résister. Expirer, c'est renoncer. Autre proposition du parcours, l'œuvre sculpturale et musicale de Vahan Sogomonian. Cette performance sur la musique, dont la composition a été réalisée avec Fabien Enardi, propose des sons multidiffusés via 9 enceintes, tout à fait atypiques car réalisées avec des objets industriels récupérés sur le toit d'une usine à Charleroi. Soyez attentifs à chaque pierre triangulaire dans la partie inférieure des enceintes. Elles peuvent s'illuminer quand le son est fort. Pour Vahan Sogomonian, l'œuvre intitulée ORG Souffle analogique est une installation sonore évoluante qui va du souffle jusqu'au langage. L'exposition à plein poumon donne à percevoir les multiples circulations du souffle et vous redonne de l'air. Elle est programmée jusqu'au 15 juillet. Plus d'informations sur bulukian.com.
Merci beaucoup, Gaëlle. Guillaume, tu n'es pas venu seul. L'artiste Wendy Martinez t'accompagne. Merci de nous la faire découvrir.
Oui, alors je voulais effectivement faire découvrir, mais peut-être pas te faire découvrir finalement aux Lyonnais, parce que voilà, tu as fait beaucoup de concerts dans la région. Donc voilà, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent déjà. Mais en tout cas, tu vas sortir un album très prochainement, donc le 31 mars au Marché Gare, puisqu'il y aura aussi une sortie de résidence et donc un concert. Alors on va éventuellement, surtout parler de cet album. Peut-être une petite bio quand même malgré tout. Alors tu fais partie d'un groupe Gloria avec beaucoup de camarades, parce que c'est un groupe où il y a beaucoup de monde qui fait, on va dire, de la pop 60s, et où toi tu fais partie d'un trio de chanteuses, voilà, un girl band finalement en anglais.
C'est ça.
D'accord.
C'est ça.
Et donc tu sors sous ton nom Wendy Martinez un album. Il y avait déjà eu un précédent EP et donc un album en français. Alors ce disque s'intitule Rivage du monde flottant. On va peut-être commencer par là.
Okay.
D'où vient ce titre ? Parce que d'habitude, souvent, les titres sont des extraits de chansons qu'il y a dans la playlist, dans la setlist. En fait, pas du tout. Là.
Pas du tout, ni dans les textes. Non, il n'y a aucune occurrence. Je me suis beaucoup posé la question de ce titre d'album. Et en fait, j'avais l'impression que cet album, il avait à la fois de la lumière et de l'ombre. Mais je ne voulais pas l'appeler clair-obscur. Je voulais vraiment trouver une expression qui puisse se traduire un peu... l'idée d'impermanence, en fait, ni bien ni mal. Donc j'ai beaucoup cherché et je me suis rappelé d'une... Enfin, j'ai farfouillé dans mes carnets, en fait, et j'ai retrouvé un terme qui est assez beau, c'est « image du monde flottant ». À la base, donc, c'est ce qui définit des estampes japonaises. Et le monde flottant en lui-même, c'est un terme japonais qui vient dire... Enfin, ça a beaucoup évolué avec les années, mais au final, ça vient dire que le monde est impermanent, illusoire, et qu'il faut se raccrocher à toutes les belles petites choses qu'on voit. Et notamment, il y a un très beau texte qui dit qu'il faut regarder une fleur de cerisier qui tombe. Or, dans ma pochette, si tu as vu, je suis au milieu des cerisiers de chez moi.
On peut dire que tu es de Besnay, la capitale mondiale de la cerise.
De la cerise, elle est très très bonne, je peux vous le dire à tous.
D'accord. D'ailleurs, on peut peut-être continuer là-dessus. Je trouve que les visuels, notamment les clips, plus les visuels de l'album, sont vraiment magnifiques. Il y a un petit côté... surannée, mais sans que ça soit péjoratif. Alors justement, je sais aussi que pour ton EP, c'est toi qui avais peint. Donc là, c'est un photographe qui n'est pas toi, mais ça a été une volonté, effectivement, ce côté un petit peu, on dirait sépia.
Oui, tout à fait. En fait, on avait très envie... Il faut bien dire que la photo initiale de Briac-Durand ressemble pas forcément à ça. On l'a beaucoup dénaturé, le pauvre, j'espère qu'il m'en va pas. Elle était beaucoup plus claire et c'est vrai que nous, on l'a vieillie un peu à la manière d'un daguerreotype, d'une vieille photo de l'origine de la photographie. Et on a fait, donc bon, les auditeurs pourront pas voir la pochette, mais on a essayé de faire aussi que le visuel puisse ressembler presque à un livre, à un roman des années 70 aussi, des années 50 ou 70. Il y avait ce type de typo, ce type de... On a inséré la photo un peu comme un camé en fait au centre de l'image. Et moi, ma posture, un peu bizarre, j'avoue, c'est pas la plus belle photo de moi, mais c'est celle qui m'a le plus plu parce que c'était la plus évocatrice, m'évoque aussi quelque chose peut-être de plus moderne et de plus atemporel. Donc on avait vraiment envie, voilà, de brasser plein d'époques, de faire quelque chose d'atemporel.
Alors justement, pour revenir sur l'album et la musique, en fait, autant dans Gloria, c'est plus les 60s, autant là, dans ce que tu fais en solo, c'est plus les années 70. Quelles sont tes références musicales ?
Oh, il y en a plein. Là, j'écoutais du Catherine Ribeiro ce matin. Il y a Brigitte Fontaine, bien sûr. Il y a Gainsbourg, bien évidemment. J'ai beaucoup éclusé aussi un peu Pierre Vassiliou, qui est trop peu connu parce qu'il a vraiment une carrière assez, assez folle.
Tout à fait, il faut aller écouter chez Born Bad, il y a deux albums génial. Qui ont été ressortis qui sont absolument fabuleux, deux compilations. Mais alors c'est étonnant, tu viens de citer que des chanteurs et des chanteuses français, d'accord ? Or, en fait, la musique, l'instrumentarium est plutôt, je trouve, plutôt américain. Il y a beaucoup, anglo-saxon, exactement. La basse est géniale sur plein de titres. La basse est absolument phénoménale.
Alexis Morel-Journel à la basse, alias, il aime pas que je dise son nom. Je veux que je dise Kit Victrola, donc le guitariste et compositeur de Gloria, qui m'a fait ces basses-là, et aussi Jérémy Bon qui est sur un titre. Mais en fait, je suis très intéressée par un courant de pop. Aussi années 60, 60 et 70 de la chanson française qui était très très inspirée par la musique anglo-saxonne, donc qui brassait très volontiers en fait tout ça, donc avec ce type de basse, ce type de batterie. Il y a même, il y a vraiment énormément d'artistes assez connus qui ont emprunté ces choses-là, et même aussi le fait de rajouter sur un titre, il y a du hautbois, il y a du basson. J'ai eu la chance de rencontrer deux musiciens fabuleux qui ont bien voulu se greffer. Il y a des idées de cordes aussi. Enfin, c'était un peu l'idée de réactualiser ce type de pop française qui était complètement inspiré. Enfin, Gainsbourg est le premier exemple d'un compositeur français complètement inspiré par la pop anglo-saxonne et qui allait enregistrer en Angleterre.
Je regarde l'objet puisque tu viens de nous l'apporter. Moi, je ne l'avais pas encore. Et donc, je vois la setlist au dos. Et en fait, il y a deux parties distinctes. Et en fait, ça me saute aux yeux parce qu'il y a un titre vraiment particulier sur l'album qui s'intitule « Catutu ». Pourquoi ? Parce que c'est un titre très, très long. Et il y a beaucoup, beaucoup de textes. Et c'est un texte assez étonnant. Même si toutes les chansons, je les trouve très littéraires. J'aime pas ce mot. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un effort côté écriture. Et c'est des chansons qui prennent leur temps. Mais celle-là, elle est vraiment particulière. Tu peux nous en dire un mot ?
Et déjà, dans la durée, elle fait 7 minutes et quelques, donc elle ne passera jamais à la radio. Mais elle est venue assez spontanément, cette chanson. Déjà, il y a cette petite ritournelle un peu peut-être brésilienne, aux consonances un petit peu brésiliennes au début de Catutu. Catutu qui veut dire « qu'est-ce que tu as tu ? Qu'est-ce que tu n'as pas dit ?» Et elle s'adresse un peu à moi et à tous les gens autour de moi qui ont des types de maladies auto-immunes, étranges, bizarres, psychosomatiques, dans tous les sens. Et je pense qu'on est extrêmement nombreux à avoir ce type de projection du mental sur le corps. Et après, le long texte est venu assez rapidement aussi. En fait, je l'ai vraiment extrait d'un carnet un soir où j'avais envie de me rassurer même, en fait, et de me bercer. C'était vraiment dans l'idée de me faire dormir, en fait. Je me suis demandé quels seraient les mots idéaux pour vraiment m'endormir comme un bébé. Sommeil en paix quand le jour a passé, ce que je dis à la fin. Donc c'est venu ça assez vite. Je l'ai quand même longuement retravaillé parce que c'était beaucoup plus long encore. Et voilà, et j'ai eu très envie de faire vivre quand même ce morceau qui est effectivement très étonnant. Donc il y a cette première partie un peu dansante au début, puis après une partie très orchestrale où je pose du texte donc parlé. C'est que du texte parlé pendant, on va dire, 4-5 minutes et vraiment effectivement de manière sans trop de respiration, avec des orchestres derrière. Et en fait, c'est rigolo parce que cette chanson-là, je la sentais étrange, mais en concert, je sais qu'elle marche bien et que souvent, c'est celle qui va un peu émouvoir le public ou toucher, ou ils vont se dire qu'est-ce que c'est que... Voilà, ils vont retenir ce nom, Catutu.
Ouais, complètement. Et alors, justement, je vais faire une comparaison, un petit peu étrange, mais on a déjà évoqué Séverine Daucourt, que tu connais, que tu as découverte grâce à une émission de radio. Et finalement, elle aussi, c'est une forme de logorée. Ouais. Enfin, logorée, c'est pas le mot, mais les textes sont très longs et voilà. Et je fais le rapport avec le titre aux femmes fortes. Et ce fameux clip qui est sorti il n'y a pas très longtemps là, et qui est absolument extraordinaire, qui fait référence à trois danseuses mythiques de l'histoire de la danse. Alors est-ce que toi aussi, parce que de dire de Séverine Daucourt qu'elle est féministe, ça serait très, très réducteur. Je trouve qu'elle est féministe bien sûr, mais dans un sens un peu plus apaisé, je trouve. Et est-ce qu'aux femmes fortes, il y avait aussi cette volonté de refaire découvrir ces danseuses ou d'avoir un message finalement?
Peut-être, parce que... alors pareil, j'ai pas envie d'étiquette quelle qu'elle soit, ni militante, ni quoi que ce soit. Je fais juste de la poésie et des chansons, personnellement. Mais c'est vrai qu'en fait, cette chanson, elle est née après l'écoute d'un podcast sur France Culture sur trois images clés de la danse moderne. sachant que j'avais étudié ça et que j'aimais beaucoup et que j'ai fait de la danse moi plus jeune. Et c'est vrai que dedans, il y avait Cunningham. Et j'ai triché, et je ne sais plus qui c'est que j'ai rajouté, si c'est Mary Wigman ou Martha Graham. Je sais qu'il y avait Isadora Duncan, mais j'aurais aussi bien pu parler de Nijinsky, aussi le danseur fou, complètement incroyable des ballets russes. Et je crois que j'ai été vraiment ébouriffée par la biographie de Isadora Duncan, Ma vie, c'est un court texte très très beau où elle pose son parcours, et c'est absolument impressionnant. Enfin, elle part de rien, avec sa mère qui donnait des cours de piano, puis elle a très vite commencé à donner des cours de danse complètement libre à des copines, puis ça s'est complètement développé, et puis elle a voyagé partout, avec ses enfants, elle a eu des compagnons partout dans le monde. C'est vraiment un parcours qui s'est arrêté un peu net, tragiquement. Donc je pense que j'ai eu envie de... Oui, moi ça m'a marqué peut-être ce parcours de femme, à cette époque, effectivement. Donc j'ai eu envie de parler... deux, trois femmes. J'aurais pu mettre Nijinsky et Cunningham, mais...
Alors, on va quand même écouter un de tes titres et j'ai ouï dire que le prochain clip, ça sera le premier titre de l'album, oui. Le Pays Imaginaire. Donc, je pense qu'on va écouter ce titre-là.
Okay.
Et puis, tu nous en diras quelques mots juste
marche.
Après.
Très bien.
Ils ont franchi la frontière, on leur promettait derrière le meurtre de la misère. Ils ont d'abord vu la mer, cette qualité de lumière, propre aux pays aurifères. Et forêt de conifères, border les premières sphères, pour arriver lent leurs frères. Dont la peau bleue s'éclaire à la vue des nouvelles mers. Des nouveaux pères de leur terre. Soudain, il n'y avait plus de frontières. Ils avaient enfin trouvé le pays qui n'existe pas. Il était derrière la matière, un clignement de paupières, un flash de lumière. Soudain, il n'y avait plus de frontières. Ils avaient enfin trouvé le pays qui n'existe pas. C'était derrière la matière, un clignement de paupières. Ils ne reviendront jamais, jamais. Ils flottaient sous l'atmosphère. De grands ballons d'éther, cœur de silence dans la clairière. Les enfants solitaires savaient se cacher derrière l'air, derrière un brin de bruyère. Des femmes aux saris ocre incendiaires défilaient tête nue et fière, près d'androgynes centenaires. Oh, 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 quatrième millénaire, il n'y avait plus de mots pour guerre, il n'y avait plus de mots pour guerre. Soudain, il n'y avait plus de frontières. Il avait enfin trouvé le pays qui n'existe pas. Il était derrière la matière, un clignement de paupières, un flash de lumière. Soudain, il n'y avait plus de frontières. Il avait enfin trouvé le pays qui n'existe pas. Il était derrière la matière, un clignement de paupières. Ils ne reviendront jamais, jamais. Yeah.
Donc on vient d'écouter Le Pays Imaginaire de Wendy Martinez, tiré de son album Rivage du Monde Flottant, qui sortira le 31 mars. On vous rappelle qu'il y a un concert de sortie de résidence au Marché-Gare, donc ce même jour, et donc l'album sera disponible le 31 mars. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est ce pays imaginaire ?
Alors bon, déjà, c'est pas lié à mon prénom. c'est pas volontaire. Ce titre, il est né très très rapidement après... Après une overdose d'informations à la radio où j'en pouvais absolument plus entre les jingles extrêmement dramatiques et les informations monstrueuses avec des migrants qui se noient, avec voilà, il y avait trop de choses, j'avais tout le temps envie de pleurer en écoutant la radio et je me suis dit que j'avais quand même besoin de parler du monde dans mes chansons parce que il y a aussi beaucoup de chansons qui sont très personnelles, qui parlent de moi. Peut-être que ça parle du monde aussi, j'en sais rien par réflexion, mais j'avais envie de parler du monde et la seule solution que j'ai trouvée, c'est de faire prendre un contre-pied total et de faire une utopie. Donc là, c'est une utopie au quatrième millénaire et tout se passe bien. Donc on peut y voir un peu, j'avoue avoir pensé, j'ai fait un petit clin d'œil à La Belle Verte. Je sais pas si tu l'as vu, il y a des chœurs de silence dans la clairière. Je sais pas si tu vois, à un moment, ils font des concerts de silence.
Complètement.
Voilà, c'est un peuple parfait où il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de misère. Et en même temps, je ne suis pas si naïve parce que dans le refrain, je dis bien que c'est le pays qui n'existe pas. On ne sait pas si c'est réel. C'est derrière la matière, c'est quelque chose de psychédélique, mais on ne sait pas exactement si ce pays existe. C'est une imagination.
En tout cas, on te remercie d'être venu. En tout cas, ça va être, à mon avis, un des albums de l'année, en tout cas en français. Moi, j'ai beaucoup aimé quand Merci. Tu as dit « voilà, je fais de la poésie » et je ne fais pas de la chanson, en fait. Je fais de la poésie essentiellement. Ok, il y a de la musique, très bien, mais c'est de la poésie. Et moi, ce sont les textes qui m'ont... Alors, la musique est formidable, mais ce sont les textes qui m'ont vraiment beaucoup touché. Donc, je pense que ça va être un très bel album et que les gens vont vraiment adhérer à ce type de disque. Voilà, on te remercie, Wendy
Martinez. Merci beaucoup à vous. Merci.
Nous terminons comme chaque semaine avec nos coups de cœur. Alors, Gaëlle, qu'as-tu prévu ?
Mon Gédéon de la semaine est une BD composite mêlant récit-témoignages et reportages sociologiques dessinés. C'est la BD Les cahiers ukrainiens, journal d'une invasion d'Igor aux éditions Futuropolis. L'auteur, Igor, avec un T à la fin, est un Italien au prénom russe. Il a habité en Ukraine où il a rencontré sa femme. En 2010, Igor sortait le premier tome d'un diptyque consacré à ses cahiers ukrainiens. Ce tome évoquait la mémoire au temps de l'URSS à travers des témoignages de survivants de l'Holodomor, cette terrible famine de 1932-33 orchestrée par Staline. Cette parole avait été directement recueillie par l'auteur. L'ouvrage insistait également sur les racines du conflit actuel. En 2015, une version augmentée du premier tome sortait. Igor, dans un post-scriptum précédant les pages supplémentaires consacrées au début de la guerre en 2014, prévenait déjà. Je le cite, « La catastrophe est sous les yeux d'une Europe stupéfaite, otage du gaz et du pétrole russe, qui feint de ne pas voir la dimension d'une absolue tragédie, comme ce fut le cas dans les années 30. » Pour le deuxième tome, « Les cahiers ukrainiens, journal d'une invasion », terminé en septembre 2022, Igor, ne pouvant pas être physiquement avec les personnes, a travaillé à distance. Sans croquis d'observation et d'après son imagination, il a réalisé un recueil de chroniques par téléphone des premiers mois de l'invasion russe en Ukraine. L'auteur offre ainsi une tribune à ses proches et à des personnes ordinaires. Les cahiers ukrainiens, journal d'une invasion, abordent la vie sous les bombardements, le quotidien dans les villes assiégées, dont Zaporijja, Boucha, Mariupol, les privations, les évacuations forcées, la recherche de proches, de nourriture, d'eau. La BD est construite sur une alternance de planches dessinées et de pages de cahiers à l'image de celle d'un journal intime. Ces textes sont parfois surmontés d'une éphéméride qui, en égrenant chaque jour nouveau de l'invasion, souligne l'installation du conflit tout en évoquant la détermination et la résistance des Ukrainiens. Igor signale toutefois, en s'adressant directement à Poutine, « L'histoire enseigne qu'on peut emprisonner et tuer des gens, pas des idées. Les idées, en effet, plus on les réprime, plus elles prolifèrent et circulent. » Je rappelle les références, les cahiers ukrainiens, journal d'une invasion, d'Igor aux éditions Futuropolis.
Merci beaucoup. Guillaume, à toi.
Alors, je pensais parler de quelque chose, mais là, vu que je viens t'entendre parler de l'Holodomor, je pense évidemment à un documentaire qui est passé sur France 5 dans l'émission La Case du Siècle, un document qui s'intitule Moisson sanglante, un documentaire qui est absolument extraordinaire, à ne pas rater, qui est en replay, bien sûr, sur le site de France 5, concernant cette thématique de l'Holodomor. C'est vraiment fait par deux historiens de premier plan, Antoine Germain et Guillaume Ribaud. Il faut absolument voir ça, c'est vraiment un documentaire qui fera écho à ta bande dessinée. Mais quand même, je veux m'intéresser à la musique. Lors de la dernière émission, Gaël, tu évoquais un chanteur-écrivain, Kali. Eh bien, moi aussi, je vais évoquer un autre chanteur-écrivain, Pierre Guénard. Alors, peut-être que Pierre Guénard, vous ne le connaissez pas. Il a pourtant écrit son premier roman, Zéro Gloire, qui est vraiment un très, très bon livre, dans la veine de Nicolas Mathieu, un petit peu. Pierre Guénard était le chanteur d'un groupe qui s'appelle Radio Elvis. Radio Elvis a produit deux EP, deux albums, et puis s'est mis un petit peu en pause. Et Pierre, en fait, va sortir un prochain album à la rentrée. Et il y a déjà un titre qui est disponible, qui s'intitule Harry, et je voulais vous le faire écouter parce que Harry, c'est une très belle chanson d'un personnage, en fait, qui est dans son roman. Donc, en fait, il a décidé de sortir cet album en solo parce que ces titres, ces chansons étaient, on va dire, plus personnelles, voilà, et qu'il ne les envisageait pas à travers son groupe Radio Elvis. Donc, on va écouter peut-être Harry de Pierre Guénard.
Tu ne t'es jamais défait de cette peau de lait et de ce ton si lisse. Tu n'as pas la magie que tous les gens te prêtent quand ils t'appellent Harry. Sous tes airs de gros dur et tous tes artifices, on devine l'imposture. Tes cheveux en arrière, la boucle à ton oreille, comme les mecs en poster. Tu crois être beau, mais tu ne l'es pas. Tu vois la beauté au mauvais endroit. Et c'est l'apothéose, les tatous à tes bras. Personne ne les voit. Tu les tous, ces regards te font mal sans te vouloir du mal. Tu les tous, montre-leur qui tu es, Harry. Tu les tous, ces regards te font mal sans te vouloir du mal. Tu les tous, montre-leur qui tu es, Harry. Leur image est la tienne, des chansons dans ta tête, tu ne sais plus qui tu es. Et tu pilles aux idoles l'envie de réussir, les idées, les paroles. Même les gens dans la rue savent que tu n'es rien d'autre qu'un goût de déjà vu. Tu crois être beau, mais tu ne l'es pas. Tu vois la beauté au mauvais endroit. Et c'est l'apothéose, les tatous à tes bras. Personne ne les voit. Tu les tous, ces regards te font mal sans te vouloir du mal. Tu les tous, montre-leur qui tu es, Harry. Tu les tous, ces regards te font mal sans te vouloir du mal. Tu les tous, montre-leur qui tu es, Harry. Si l'un d'entre eux sourit et que tes mots le touchent, laisse le rond de tes lunettes leur dire qui tu es. Montre-leur qui tu es, Harry. Montre-leur qui tu es, Harry. Qui tu es, Harry.
Merci Guillaume. On vient d'écouter Harry de Pierre Guénard. Et pour moi, ce sera une exposition, une fois n'est pas coutume. Je m'aventure sur les terres de Gaël pour vous parler de l'exposition « Ça se trame » au RIS de Villeurbanne. Le lieu est original. Il a pour vocation de transmettre la mémoire collective de Villeurbanne. Pour cette exposition, il est question de textile. Vous vous en seriez douté. Employant un très grand nombre d'ouvrières et d'ouvriers, ce secteur d'activité fut l'un des plus actifs sur le territoire lors de la période industrielle. À Villeurbanne, bien sûr, mais également à Lyon. L'exposition est à voir jusqu'au 30 septembre. Des visites guidées sont organisées, mais surtout de multiples rencontres culturelles. J'en ai retenu deux qui arrivent très vite. Le samedi 11 mars à 15h, une balade urbaine de 2h sur les traces des usines d'autrefois. Et le jeudi 16 mars à 19h, Jean Genet versus Mahmoud Darwish. Un duo poétique au-delà des frontières. Lecture, mise en musique dans le cadre du Printemps des Poètes. Le RIS vous propose chaque semaine de nouvelles propositions pour réserver et découvrir le programme une seule adresse, leris.villeurbanne.fr. Merci pour votre écoute et votre fidélité. À la semaine prochaine. J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaël Bossier-Lombard à retrouver sur liondemain.fr.